Attention, vous écoutez un programme avec un contenu idéologique manifeste. Si vous êtes centriste, apolitique, de droite, bourgeois, capitaliste, ce qui reviendra au même le jour où éclateront les barricades, veuillez changer de station afin de rester heureux et ignorant. L'équipe de la radio ne pourra en aucun cas être tenue responsable des conflits intérieurs inhérents à la production sonore que vous allez entendre.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le magazine de Canal Sud. 1000 milliards, faudra-t-il pendre le dernier banquier avec les tripes du dernier spéculateur? 1000 milliards, c'est le record. C'est une étude du cabinet Henderson Gill sur les 3000 plus grandes capitalisations boursières et qui montre qu'en 2013, 1000 milliards de dollars de dividendes ont été versés, dont 50 milliards pour la France, troisième pays du classement. 1000 milliards, voilà, 1000 milliards versés aux actionnaires et pour nous, et pour nous, et pour les salariés, et pour le travail. Que reste-t-il? Eh bien, il reste la propagande du gouvernement, il reste le coût du travail exorbitant, il reste tout ce qu'on nous dit partout sur les charges. Et face à tout ça, il y a une offensive, contre-offensive, qui est en train de se monter, qui montre que finalement le problème, c'est peut-être pas tant le coût du travail, mais le coût du capital. Et pour en parler ce soir, on reçoit Thomas Daléry, maître de conférence à l'université du littoral Côte d'Opale, université de Dunkerque. Et puis on va écouter un extrait de la conférence qui s'est donnée hier soir avec Thomas donc, et Mireille Bruyère, professeur d'économie à l'université de Toulouse, qui est membre du conseil scientifique d'attaque et fait partie des économistes atterrés. Bienvenue dans le magazine de Canal Sud.
On est volé à la bourse comme on est tué à la guerre par des gens qu'on ne connaît pas.
Un dictateur qui meurt, c'est une banque suisse qui ferme.
Comme dit Jules Renard, l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le.
Comme dit Prévert, avec mon salaire, il se paie ma tête.
Quelle est la différence entre un accident et un banquier? Si le banquier se noie, c'est un accident. Si tu le sauves, c'est une catastrophe.
Bon alors, comme le dit Tristan Bernard, on ne prête qu'aux riches si on a bien raison. Parce que les autres remboursent difficilement. Comprenez?
Chez un banquier, c'est l'argent qui travaille le plus.
Qui est le plus grand voleur? Celui qui vole une banque ou celui qui en ouvre une?
Votre argent m'intéresse.
Le résultat des courses!
Ça va faire mal en bourse.
Extrait de la bande-annonce du Grand Retournement. N'hésitez pas à aller voir ce film, il vous aidera à bien comprendre en poésie tout ce qui se passe en finance. Et on commence cette émission sur le coût du capital avec l'intervention donc de Mireille Bruyère. J'ai oublié de dire qu'elle était par ailleurs militante CGT à Toulouse. Mireille Bruyère qui va nous retracer un petit peu l'histoire du capitalisme de ces dernières années. On écoute ça une vingtaine de minutes et puis ensuite on sera en direct avec Thomas Daléry pour parler de ce fameux coût du capital.
Tout ce qu'on se constate actuellement, c'est qu'on est dans une situation de crise qui est marquée, souvent on insiste là-dessus, par une augmentation des inégalités, le développement de la précarité du travail, de la flexibilité, donc des conditions qui sont de plus en plus précaires pour les salariés. Et ça, c'est les conditions et les conséquences qu'on observe tous les jours et contre quoi on lutte. Et pourtant, on va essayer aujourd'hui de remonter un petit peu aux conditions macroéconomiques qui permettent ce développement de la précarité et cette augmentation des inégalités. Je vais faire ma présentation en deux temps. Je vais d'abord insister sur les dynamiques du capitalisme qui conduisent à cette augmentation des inégalités, à cette crise et donc cette flexibilité du travail. Et à côté de ça, en deuxième temps, je vais essayer aussi d'insister sur les dynamiques politiques qui ont permis que ça dure dans le temps, c'est-à-dire quelles sont les politiques économiques qui ont conduit au basculement du capitalisme industriel qu'on a connu pendant les Trente Glorieuses à ce capitalisme dit néolibéral. Donc je vais avoir une articulation en deux temps, sachant que d'un côté comme de l'autre, évidemment, ça reste des choix politiques. Il n'est pas question de dire que l'économie est séparée du politique. Hein. Je vais parler, comme le peut le faire une économiste qui fait de l'analyse d'économie politique. Hein, donc ce n'est pas une différence de qualité, simplement pour la présentation, je vais d'abord parler du côté en fait, des grandes entreprises, et puis après je vais parler du côté des décisions politiques qui ont conduit à ce capitalisme néolibéral. Alors, rappelons quand même quelles étaient les conditions du capitalisme industriel pendant les Trente Glorieuses, rapidement. Souvent on appelle ça le capitalisme qui était fondé sur un compromis fordiste, pour dire que pendant cette période-là, un des éléments fondateurs de cette, enfin fondateur, un des éléments central de ce capitalisme, c'était une progression équivalente entre le capital et le travail. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait des gains de productivité, et à cette époque, les gains de productivité, c'est-à-dire les gains de productivité, c'est l'efficacité productive chaque année. Qui s'améliorait donc chaque année, ces gains de productivité étaient répartis relativement, enfin, équitablement entre le capital et le travail, et donc on avait une situation où les salaires progressaient autant que ne progressait la croissance économique, et le capital donc le profit progressait aussi, et ce profit, c'est un élément aussi important dans lequel on reviendra, ce profit était transformé en investissement. Donc on avait une situation où les salaires progressent beaucoup, où le profit aussi progresse, mais ce profit est transformé en investissement et donc vient s'investir sur le territoire en France, hein, en particulier, donc dans les grandes entreprises, ben, réinvestissent le profit. Et donc ça permet évidemment d'enclencher une dynamique d'accumulation du capital qui, je dirais, permet d'accroître la production future, donc d'accroître les forces productives futures. Donc on a cette situation au niveau des entreprises et se développe évidemment avec l'augmentation des salaires, se développe l'état social. On a une progression de la protection sociale importante pendant les Trente Glorieuses qui permet, hein, condition de la consommation, enfin donc aux ménages de consommer de manière importante, même quand ils sont à la retraite par exemple. Donc on a une sorte de cercle vertueux qui se met en place entre la progression des salaires, l'investissement, le développement de l'état social qui conduit à une forte croissance. Alors, ce qui se passe, c'est que tout ça peut évidemment est donc une bonne nouvelle en termes de progrès social, mais tout ça ne dure pas longtemps pour plusieurs raisons. C'est que la première raison, c'est que la consommation des ménages, évidemment, progresse, mais ne peut pas continuer à des rythmes tels qu'on a connus, parce que la demande des ménages commence à s'épuiser concernant les produits industriels. C'est-à-dire que dans les années 60, la consommation devient une consommation massive de produits industriels, en particulier l'automobile, hein, l'équipement de la maison. Et puis au bout d'un moment, évidemment, cette consommation des ménages, cette demande des ménages vers les produits industriels va s'épuiser, et c'est certainement normal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'elle continue de croître comme elle a cru pendant les Trente Glorieuses. Donc première chose qui commence à arriver à la fin des années 70, c'est une stabilisation de la demande de biens industriels. Première chose importante, et donc on commence à voir apparaître une croissance économique moins importante parce que la consommation des ménages en biens industriels commence à stagner. Elle ne diminue pas, mais commence à croître de moins en moins vite. Deuxième élément important, c'est comme l'état social se développe, l'état social développant des services non marchands, hein, c'est l'objectif de l'état social, la santé, l'éducation, etc. Et donc, il y a un deuxième mouvement qui vient apparaître, c'est que de plus en plus, les ménages consomment des biens dits non marchands, éducation, santé. Et tout le monde sait très bien que ces biens non marchands, ce n'est pas des opportunités de profit pour le capital. Donc, d'un côté, ce qu'on consomme en termes de biens marchands croît moins vite. Et d'un autre côté, ce qu'on cherche à consommer de plus en plus, l'éducation, la santé, c'est une consommation du collectif, socialisée, et qui ne sont pas des opportunités de profit pour le capital. Alors, je vais assez vite, mais je résume en gros les grosses tendances. Évidemment, ces deux mouvements font que dans les années 70, et même tout le long des Trente Glorieuses finalement, le taux de profit va diminuer. C'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle en termes de progrès social, hein, les Trente Glorieuses, on s'en rappelle, comme forte croissance, protection sociale, etc. Mais le taux de profit pendant cette période-là ne fait que diminuer, et donc, évidemment, ça pose un problème pour une partie de la société, les capitalistes, qui disent, si on continue comme ça, évidemment, on va être de plus en plus mal. Hein. Ce n'est pas la logique du capitalisme que d'avoir un taux de profit qui diminue. Et donc, il faut trouver des voies de sortie permettant de rétablir le taux de profit. Alors, vous avez le schéma derrière, qui est un schéma que j'ai tiré d'une publication de Michel Husson, qui montre que, effectivement, les taux de profit dans les pays occidentaux diminuent pendant la Trente Glorieuse jusqu'à la bascule de la fin des années 70, début des années 80. Et souvent, pour nous tous, hein, c'est la bascule entre les Trente Glorieuses ou le capitalisme, le compromis fordiste, hein, ce qu'on appelle le capitalisme néolibéral. Donc on a ici une première explication, c'est que le capitalisme néolibéral, c'est les réponses institutionnelles qui ont été données à la tentative de rétablir le taux de profit. Comment est-ce que les institutions économiques, les grandes entreprises, les institutions internationales, l'Europe, etc., ont répondu à la question comment rétablir un taux de profit. Alors, je vais quand même, avant d'introduire, je ne vais pas avoir le discours que, évidemment, c'est un dessin conscient, cohérent, etc. Ça a été décidé de manière consciente à un moment donné, puis on l'a mis en place. C'est qu'on a pris des décisions politiques et il y a eu des décisions qui ont été prises au niveau des grandes entreprises qui, ensemble, ont fait cohérence. Hein, au fur et à mesure de l'histoire, ont fait cohérence. C'est-à-dire que les décisions qui sont prises par les grandes entreprises pour trouver des opportunités de profit nouvelles, à la fin des années 70 et début des années 80, vont être accompagnées par les décisions en termes de politique économique. Et c'est parce qu'il y a une cohérence entre ces deux choses qu'on a pu rentrer dans ce capitalisme néolibéral qui a duré tant de temps. Alors, on en voit maintenant les effets avec la crise, donc on en voit les limites. Bien sûr, les réponses qui sont données sont des réponses non durables, hein, comme on verra au fur et à mesure. Mais finalement, on peut dire que les réponses ont été cohérentes parce qu'elles ont duré quand même plus d'une trentaine d'années. Alors, première série donc d'explications, et ce que je vous avais dit en deux axes. Le premier axe, c'est quelles sont les stratégies des firmes, donc des grandes entreprises en particulier, pour trouver des opportunités de profit nouvelles. Que vont faire les grandes entreprises pour trouver des opportunités de profit nouvelles? Alors, la première chose, c'est que ça commence aux États-Unis, mais ensuite c'est les grandes entreprises européennes, c'est qu'elles vont évidemment réorganiser la production à un niveau mondial. Les grandes entreprises américaines décident de trouver une manière de faire du profit en organisant la production au niveau mondial. Alors, elles le font pas, comme on pourrait le dire de manière simpliste, en délocalisant, en fermant l'entreprise des États-Unis, par exemple General Motors, et en délocalisant en Chine. Elles ne font pas ça d'un bloc. Elles organisent plutôt la production au niveau mondial. C'est-à-dire qu'elles vont dans la chaîne de production, si je prends l'exemple d'une industrie automobile, elles ne vont pas fermer l'ensemble de la production qui est sur le territoire des États-Unis, mais elles vont délocaliser des petites parties de la production. Par exemple, les sièges auto, les pneus, etc. Donc, elles vont organiser la production au niveau mondial avec des segments différents. Donc, une partie à Malaisie, une autre partie en Chine, etc. Et puis, pourquoi pas, un assemblage de la voiture finale aux États-Unis. Donc, on a une organisation plus complexe. Hein, quand on dit on délocalise, on a une organisation plus complexe qui fait qu'on va, comment dire, organiser mondialement des segments de la production à plusieurs endroits. Ça, c'est la première chose. Donc, ça conduit à un phénomène un peu, euh, un particulier qui fait que les grandes entreprises externalisent, sous-traitent une partie de la production, que ce soit sur le territoire ou à l'extérieur, comme je l'ai dit dans mon exemple de pneus, par exemple. Donc elles externalisent, elles sous-traitent, et nécessairement, on va avoir la montée en puissance des groupes qui sont finalement organisés, qui organisent la production au niveau mondial avec des entités à l'intérieur du groupe qui ont des petites parties de la production, de l'ensemble de la production de la voiture, dans le cas de la voiture. Hein, donc on a une organisation de la production au niveau mondial. Donc ça c'est la première chose. Évidemment, cette réorganisation au niveau mondial, cette sous-traitance, cette externalisation fait qu'on va avoir une concentration financière très très importante dans les grandes groupes, dans ces firmes multinationales. On va avoir une montée en puissance de ces firmes multinationales dans la mondialisation qui finalement gère la production au niveau mondial, et ça va avoir des effets importants sur le travail, sur l'investissement qu'on peut repérer. La première, c'est que elles ont la capacité maintenant à faire pression sur le travail, et donc on va voir les parts qui revient au travail dans la valeur ajoutée, donc dans la richesse créée chaque année dans les pays. On peut identifier dans la comptabilité nationale ce qui revient au travail. Donc chaque année, il y a une valeur ajoutée qui est créée, qui est nouvelle, qui est la nouvelle richesse créée chaque année dans un pays. On peut repérer ce qui va au travail, et on voit que dans le capitalisme néolibéral, la part qui va au salaire diminue. C'est un effet de la mondialisation des firmes, parce qu'elles ont la capacité, en délocalisant, en externalisant, en sous-traitant, de faire pression sur le travail, comme on peut le voir. Alors bon, c'est les parts salariales dans de nombreux pays. Donc finalement, la mondialisation, c'est la mondialisation des firmes et non pas la mondialisation des pays les uns par rapport aux autres. Donc on a cet effet sur la part salariale, première chose. Et puis deuxième effet, peut-être Thomas en reviendra rapidement, c'est que les entreprises ont limité, fortement modéré la transformation des profits dans l'investissement. Il y a des profits, il y a des dividendes qui sont distribués. Donc ça fonctionne, hein, comme vous l'avez vu, c'est-à-dire que le taux de profit réaugmente, ça fonctionne bien, mais ce taux de profit n'est pas transformé en investissement, c'est-à-dire on distribue des dividendes, ça va dans les marchés financiers, et ça ne se transforme pas en investissement, donc il n'y a pas un autre moteur qui viendrait, je dirais, compenser la baisse des salaires. On pourrait dire, bon, la baisse des salaires baisse, dommage pour nous, mais comme on investit, plus tard on va le récupérer. Hein, c'est ce que disait Schmitt, il disait les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Mais malheureusement non, parce que les investissements n'ont pas pris le relais de la baisse des salaires. Et donc évidemment, on est dans une situation d'augmentation des inégalités importantes. Alors, je passe donc à mon deuxième point. Donc le deuxième point, c'était quelles sont les politiques économiques qui ont accompagné et permis la durabilité de ces stratégies des firmes. C'est évidemment que ces firmes ont pu se organiser au niveau mondial parce qu'on leur a construit un outil institutionnel très très puissant qui s'appelle les marchés financiers. C'est-à-dire que ça, c'était possible d'organiser la production au niveau mondial s'il y a des marchés financiers qui permettent une bonne mobilité du capital. Donc on en vient à ça, c'est quelles sont les politiques économiques qui ont construit ces marchés financiers. La question qui était posée dans les années 80 aux gouvernements, en particulier Thatcher et Reagan, c'était comment rétablir la rentabilité du profit. Ben, il fallait améliorer, tout simplement, les marchés des capitaux. Hein, un libéral, quand on lui pose la question d'un problème à un endroit, il dit ben, c'est que le marché ne fonctionne pas bien, il suffit que j'améliore le marché et ça fonctionnera mieux. Donc, qu'ont fait les politiques néolibérales des années 80, c'est d'essayer d'améliorer, d'agrandir, de rendre plus fluides les marchés des capitaux. Et donc on a eu plein de décisions politiques qui ont amélioré le fonctionnement des marchés des capitaux. Alors la première, évidemment, c'est de déréglementer ces marchés, la plus simple et la plus classique, c'est-à-dire on a déréglementé le passage d'une bourse à une autre, par exemple entre Francfort et Paris, ben, on a supprimé les barrières, donc les capitaux peuvent se déplacer plus facilement. Et donc ensuite on a créé des grandes bourses européennes et puis ensuite maintenant transatlantiques. Donc première chose, on a donc déréglementé ces marchés des capitaux. Deuxième chose, on a privatisé le système bancaire, c'est-à-dire que on a largement désencadrer l'activité bancaire, hein, qui avait comme objectif de financer l'économie, de financer les entreprises par prêts bancaires classiques, comme ça se faisait dans les années 70. Bon, ben, on a privatisé, on a dit aux banques, ben, faites ce que vous voulez. Hein, donc si vous voulez prêter aux entreprises, faites-le. Mais si vous voulez aller sur les marchés financiers, vous faites comme vous voulez. Donc on a laissé les banques choisir leur manière de faire du profit. Et donc évidemment, les banques ne se sont pas gênées pour, elles aussi, intervenir sur les marchés financiers. Et c'est une des raisons de la crise. Troisième chose, on a, dans les années 80, conduit des politiques monétaires, en particulier le taux d'intérêt des banques centrales, très très restrictives. C'est-à-dire qu'on a, particulier à la Fed, on a augmenté fortement les taux d'intérêt des banques centrales. Alors ça commence dans les années 80 avec Paul Volcker, qui décide à la Fed d'augmenter fortement les taux d'intérêt de la Banque centrale des États-Unis. Alors, l'argument de l'époque, c'était pour casser l'inflation, mais là, ça a eu un effet très, très, très net. C'est qu'évidemment, les entreprises qui étaient endettées auprès des banques à des taux d'intérêt prohibitifs, elles n'ont eu qu'une hâte, c'était de se désendetter auprès des banques et d'aller se financer auprès des marchés financiers qui étaient moins chers. Donc, cette politique restrictive dans les années 80, politique qu'on appelle une politique monétaire très restrictive, de taux d'intérêt très élevés, a poussé les entreprises à ne plus aller voir les banques pour se financer classiquement, comme on fait quand on fait un prêt, mais aller sur les marchés financiers pour se financer de manière moins chère. Donc là aussi, on a bien organisé, bien canalisé, hein, le financement vers ces marchés financiers. On a aussi, dans tous les pays, mais surtout en France, conduit des vagues de privatisation des grandes entreprises nationales. Quand on dit vague de privatisation, ça veut dire que l'État vend sur les marchés financiers son capital des entreprises nationales. Donc là, les vagues de privatisation, vous les connaissez, hein, 86, 93. Donc les grandes entreprises nationales, d'ailleurs très efficaces, et donc qui sont devenues maintenant des géants mondiaux, comme Orange, par exemple, eh ben, on les a vendues. Et donc on a alimenté là aussi les marchés financiers au moment où arrivaient sur ces marchés financiers les fonds de pension américains qui sont rentrés joyeusement dans le capital des grandes entreprises françaises. Et on se trouve dans une situation où on a un capitalisme industriel français largement extraverti, c'est-à-dire beaucoup, très, très, très aux mains des actionnaires non résidents, et en particulier des fonds de pension, beaucoup plus que par exemple le capital industriel allemand. On a un capitalisme très extraverti et très internationalisé. Dernière chose qui a évidemment conduit à l'augmentation des marchés financiers, c'est qu'on a obligé les États, en particulier en construction européenne, à se financer auprès des marchés financiers. C'est-à-dire qu'on a basculé avec Maastricht d'un financement auprès des banques centrales classiques. Bon, chez nous, c'était le circuit du Trésor, un circuit plus ou moins administratif pour financer l'État. On a, avec Maastricht et sous prétexte de construire un euro fort, on a obligé les États à se financer auprès des marchés financiers. Et donc d'aller demander au marché financier les parts nécessaires pour financer les déficits. Et donc tout ça, évidemment, on a donc construit les marchés financiers, puis on les a alimentés. Et donc évidemment, ça a fait que les marchés financiers ont grossi en taille et sont devenus une institution très très forte pour dominer, pour permettre d'avoir des coûts du capital très élevés. Donc c'est une institution qui domine maintenant l'économie, qui domine le fonctionnement général de l'économie. Et je terminerai là-dessus. Et donc vous avez les fonds de pension en particulier, pour la petite histoire, hein, les fonds de pension se sont largement déversés vers les marchés mondiaux des capitaux parce qu'on a décidé en 1974 par une loi d'obliger les fonds de pension américains d'avoir dans leur portefeuille, hein, vous savez que les fonds de pension c'est un gestionnaire qui collecte l'épargne des salariés américains pour leur permettre, quand ils seront à la retraite, d'avoir leur retraite. Donc, ces fonds de pension ont des règles de gestion, évidemment, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et en 1974, on leur a obligés de diversifier leur portefeuille. Donc, on leur a dit, bon, vous ne pouvez pas gérer l'épargne des salariés américains comme ça. Il faut que vous preniez des actions un peu partout, comme ça, ce sera plus sûr. Si jamais il y a une entreprise américaine qui fait faillite, ben, au moins, il y en aura d'autres en France, en Allemagne, etc., qui pourra prendre le relais. Donc, pour des questions de sécurité de l'épargne des Américains, on a poussé les fonds de pension américains vers les capitaux mondiaux. Donc, finalement, ça vient alimenter fortement les capitaux, les marchés financiers mondiaux. Et il faut voir que les fonds de pension, c'est beaucoup, beaucoup d'épargne. Hein. C'est pas petites épargnes, c'est beaucoup, beaucoup d'épargne qui viennent évidemment avoir une influence importante, que ça a un effet donc, en descendant sur l'augmentation de la norme de rentabilité du capital, que ce soit les actionnaires ou les dirigeants disent « il nous faut 15% de rentabilité du capital financier, sinon les actionnaires risquent de partir ailleurs. » Il faut absolument qu'on respecte cette norme de rentabilité, qui n'est pas celle des Trente Glorieuses du tout, qui est très très élevée. Mais ça a aussi des effets sur les petites entreprises qui ne sont pas en lien direct avec les grandes, parce que du coup elles ne trouvent plus des conditions de financement correctes, parce que les banques sont sur les marchés financiers, elles ne les financent plus. Et donc les petites entreprises aussi, qui ne sont pas directement en lien avec les grandes entreprises, se trouvent aussi être dans la boucle par la raréfication du crédit bancaire. Alors ça génère donc une rentabilité élevée qui est réinjectée dans les marchés financiers, qui continue de peser. Donc on a un cycle comme ça, vicieux, je dirais, qui se réalimente à chaque fois, qui pèse en passant par les marchés financiers.
Voilà, on vient de s'écouter donc un extrait de la conférence d'hier sur le coût du capital. Donc c'était Mireille Bruyère, voilà, économiste toulousaine. On revient dans un instant avec Thomas Dallery pour parler du coût du capital, mais on se fait tout de suite une petite pause pour respirer.
Rien dans les mains, tout dans les poches, bien propre sur eux et sans reproche, juste une petite trace de vaseline sur le capot de la limousine. Du PIB, c'est pas sexy mais je vais t'expliquer. Cet argent c'était du salaire, maintenant c'est du yacht de milliardaire. 120 milliards par an, c'est ce qu'ils nous veulent depuis 20 ans. Hold up tranquille et sans danger, on regarde tous la télé. C'est comme dans une corrida, la muleta nous hypnotise. Le trou de la sécu nous fait peur, celui des retraites nous tétanise. Attends là, ôte-moi d'un doute, 120 milliards par an depuis 20 ans, ça fait 2400 milliards. Le trou de la sécu c'est 27 milliards, celui des retraites c'est 7 milliards, on serait pas en train de se faire. C'est le manège des bonimenteurs, le carnaval des bons parleurs, tour de passe-passe et illusion. C'est le jeu de la trappe couillon, et rien dans les mains, tout dans les poches, bien propre sur eux et sans reproche. Juste une petite trace de vaseline sur le capot de la limousine. Et c'est 9,3%, c'est qu'une partie de notre dû. On s'en tiendra là pour l'instant, on y reviendra en temps voulu. Et même si on le reprenait, il roulerait toujours en Bentley. Pas besoin d'être révolutionnaire pour parfois se mettre en colère. 9,3 c'est pas que la Seine-Saint-Denis, c'est aussi le gang, le posse, des voleurs en costard cravate qui engraissent comme des coqs en pâte. Et c'est le manège des bonimenteurs, le carnaval des bons parleurs, ne passe pas ces illusions. C'est le jeu de la trappe couillon, et rien dans les mains, tout dans les poches, bien propre sur eux et sans reproche. Juste une petite trace de vaseline sur le capot de la ligne.
Ah, le capitalisme, c'est tellement mieux quand c'est expliqué en chanson. C'était la rabia, 9,3%.